ne comprends pas.
Je vais vous l'expliquer en une minute au tableau noir.
Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites ici et à qui ai-je l'honneur?
Son vrai nom, je ne le connais pas, mais par ici, on le connaît sous le nom de...
Professeur?
Ensemble sur Calade, le prof.
Alors attention, hein. Pas docteur, hein. Professeur. Mais...
Monsieur le professeur.
C'était un vieux jingle, ça, qu'on a ressorti des tiroirs que j'avais oublié pour la rubrique du prof Patrick. Bonjour, prof Patrick.
Salut à tous.
Ça va bien, en forme?
Ça va bien, pas de problème.
Bon, on a commencé la semaine dernière une série sur les régimes. Alors attention, est-ce que je vais réussir à le dire? Libertarien autoritaire.
Sur le régime libertarien autoritaire, du moins, ça va être notre destination.
Okay.
J'ai dit qu'on allait faire une série de trois chroniques sur les régimes politiques d'accumulation, c'est-à-dire les structures politiques mises en place dans les sociétés pour permettre au capitalisme de fonctionner, un capitalisme qui peut se transformer au fil des années. On a vu la semaine dernière que le premier régime politique d'accumulation de l'ère moderne, c'était le régime libéral entre le 19e siècle et la Deuxième Guerre mondiale. On avait vu que ce régime libéral a été remplacé après la Deuxième Guerre mondiale par le régime fordiste, en gros, qui est fondé sur une sorte d'alliance entre les salariés qui consomment et les directions d'entreprises qui leur fournissent suffisamment de revenus pour que les salariés puissent consommer les produits que les entreprises leur vendent. Le tout chapeauté par un État qui est un État-providence qui œuvre à réduire la pauvreté et les inégalités. Ça, c'était le régime fordiste qui a duré jusqu'à la fin des années 70. Ce régime est entré en crise dans les années 70 et a donc été remplacé par le régime politique d'accumulation néolibéral, le néolibéralisme, au début des années 80. Ce régime néolibéral a dominé pendant 40 ans et commence, depuis quelques années, à être remis en cause par le régime politique d'accumulation libertarien autoritaire.
D'accord.
Mais n'allons pas trop vite en besogne, Mathieu.
Ouais.
Je vais d'abord revenir sur le régime néolibéral, qui a été quand même notre quotidien ces 40 dernières années, pour redonner un peu de détails sur en quoi ça consiste. Si tu te rappelles, mais je pense que tu ne te rappelles pas, Mathieu, j'ai fait une chronique en décembre 2020, ça commence à dater un peu, dont le sujet était Covid et libertés publiques, et dans lequel j'avais déjà défini les origines intellectuelles du néolibéralisme. Alors je vais un petit peu rappeler ça. J'avais évoqué dans cette chronique l'américain Walter Lippmann, qui dans les années 20 et 30 a travaillé à définir le néolibéralisme comme, j'explique ça, comme le travail que l'État doit mener par le haut pour forcer les populations à s'adapter à une économie de marché.
D'accord.
Et à une économie de marché dont la vocation est de s'étendre à tous les aspects de la vie humaine, la marchandisation du monde. L'idée, c'est qu'en fait, on utilise l'État pour vraiment forcer cette transformation. Avec un système démocratique, un régime politique, système démocratique, qui évolue vers une démocratie des experts, confiant le pouvoir à des experts. On avait cité aussi dans cette chronique un philosophe allemand, Carl Schmitt, connu historiquement parce que c'est lui qui a créé le système juridique des nazis dans les années 30. Eh bien, Carl Schmitt, il avait fondé une notion, la notion d'État fort. Un État fort, pour Carl Schmitt, c'était... un État qui impose la bonne direction et qui combat les menaces de l'État-providence ou des alternatives socialistes. On avait cité aussi comme origine intellectuelle du néolibéralisme les économistes Friedrich Hayek et Milton Friedman.
D'accord.
Et on avait cité aussi l'école économique de Chicago, qui est l'école de Milton Friedman, qui avait conseillé Pinochet dans la relance économique après qu'il ait fait son coup d'État au Chili, et qui a conseillé également Boris Eltsine après la chute de l'URSS.
Il y a du beau monde quand même.
Exactement. Tout ça, c'est les bases intellectuelles du néolibéralisme. On avait vu, et ça c'est très important, que dans la philosophie néolibérale, la liberté des marchés a la priorité sur les libertés démocratiques. J'avais cité Margaret Thatcher et Frédéric Hayek qui disaient ça.
Oui.
S'il faut choisir entre les deux, il faut choisir la liberté des marchés, pas la liberté démocratique.
D'accord.
On va aller un petit peu plus loin dans la description de ce régime néolibéral, Mathieu.
Oui.
D'abord, il faut savoir que c'est l'arrivée au pouvoir de Ronald Reagan aux États-Unis en 1980, juste après l'arrivée de Margaret Thatcher au Royaume-Uni en 1979, qui a déclenché cette révolution néolibérale. Il s'est agi dès lors dans ces deux pays, puis par contagion dans quasiment tous les pays développés, de mettre en place des politiques résolues de recul de l'intervention de l'État, dans l'économie, hein, bien sûr, faire reculer l'État-providence. Voilà. À coup de privatisation, à coup de déréglementation, et à coup d'accélération des mesures en faveur du libre-échange. La décennie des années 80 va aussi connaître la révolution des marchés financiers, soutenue par les progrès majeurs dans l'informatique et les télécommunications, et par les déréglementations massives. va se créer un réseau mondial interconnecté de places financières dans le monde entier, où l'argent circule librement. Ces marchés financiers vont exploser en puissance. Ils vont financer massivement les multinationales dont la taille et le nombre va exploser en conséquence. Ces multinationales vont développer leurs activités dans le monde entier dans les années 80-90. Elles vont donc provoquer la montée en puissance de certains pays en développement qu'on appellera les pays émergents. Bref, c'est tout le mécanisme de la mondialisation qui se met en place à la faveur de cette révolution néolibérale. En Europe, on assiste dans les années 80 à la transformation de la communauté économique européenne en Union européenne. Alors, ce n'est pas qu'un changement de nom, c'est un changement de philosophie. C'est le grand projet du marché unique qui va placer la concurrence libre et non faussée comme principe désormais prioritaire sur tous les autres. Et l'Union européenne, France en tête, va participer activement à mettre en place la révolution financière mondiale. Voilà, c'est comme ça que s'est installée et a installé sa domination, que le régime néolibéral a installé sa domination. Pour synthétiser tout ça, on pourrait dire la chose suivante. Alors que le principe de la philosophie libérale consistait à limiter le plus possible l'intervention de l'État, en gros, l'État doit être présent dans le domaine de la police, la justice et l'armée, c'est la philosophie libérale, et consistait à être très strict sur les libertés politiques, la philosophie libérale consiste à dire les libertés politiques sont prioritaires. Eh bien, pour les néolibéraux, au contraire, eh bien, on n'hésite pas à utiliser massivement l'État pour contraindre ces populations à accepter un recul de l'État-providence et à accepter une éventuelle mise en second, en termes de priorité, des libertés démocratiques sur la liberté de marché.
Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui la crise économique c'est une espèce de monstre qu'on nous ressort régulièrement. Attention, on va être dans une crise économique. J'ai l'impression que c'est quelque chose que les gouvernements nous disent attention si y a un effort.
Alors oui, ça peut être un argument bien sûr pour faire taire les gens qui réclament ceci ou cela. Les crises économiques montrent aussi en fait que le système économique est géré tant bien que mal par les puissances politiques. C'est une espèce de monstre difficile à gérer, quelque sorte. C'est comme une sorte d'animal sauvage qu'on n'arrive jamais vraiment à dompter, le système économique. Donc on est toujours en crise, on est toujours en déséquilibre en permanence. Autre différence importante entre libéralisme et néolibéralisme, les libéraux considèrent que les entreprises en situation de domination de marché, d'entreprises trop puissantes, peuvent être un frein à la libre concurrence, tandis que les néolibéraux s'accommodent sans trop de problèmes de la domination des multinationales. Ça fait aussi une différence notable. Et nous voilà, Mathieu, arrivés dans la décennie 2010-2020.
Ok.
Voilà, ça y est, on y est.
Hier.
Et à partir de là, je vais utiliser un livre qui s'appelle « La finance autoritaire vers la fin du néolibéralisme », qui a été écrit par Marlène Binquet et Théo Bourgeron, c'est-à-dire une spécialiste de sciences politiques et un sociologue, pour décrire un petit peu l'avènement de ce nouveau régime, le régime libertarien autoritaire. Alors, pour comprendre son avènement, en fait, on va partir d'un événement. Trop drôle. L'événement, c'est quoi ? C'est le Brexit.
D'accord.
Les Anglais, vous le savez, décident du Brexit à la surprise générale en 2016. On a coutume de penser, Mathieu, que la City de Londres, la City, c'est la plus grande place financière mondiale à égalité avec New York. D'accord. Donc c'est les marchés financiers. On a coutume de croire que la City, à Londres, a combattu le Brexit, était pour que le Royaume-Uni reste dans l'Union européenne. Et c'est vrai, mais ce n'est que partiellement vrai. Ce qu'on ne sait pas trop, c'est que ce n'est pas totalement vrai. Alors pour comprendre ça, il va falloir qu'on considère qu'il existe deux familles d'acteurs différentes dans le monde de la finance. Il y a une famille classique qui soutenait l'Union européenne et qui était contre le Brexit, c'est la famille dans les marchés financiers qui soutient le régime classique néolibéral. Et il y a une autre famille plus récente, moins connue, qui elle va être le pilier du Brexit et le pilier de l'avènement du régime libertarien autoritaire. Alors, rentrons dans le détail. La première famille anti-Brexit, c'est les grandes banques internationales, notamment les banques d'affaires américaines, mais aussi les grandes banques européennes, les grandes banques japonaises, américaines, etc. etc. Elles ont intérêt principalement à ce que... elles avaient intérêt, parce que c'est raté, que le Royaume-Uni reste dans l'Union européenne, parce qu'en fait, c'était une tête de pont pour faire du business dans l'Union européenne. On peut rajouter des compagnies d'assurance, des fonds de pension, des fonds d'investissement souverains. Tout ça, c'est les soutiens de la, ce que les auteurs de l'ouvrage que je mettrai en lien dans le podcast appelaient la première financiarisation. Oui, mais il existe une deuxième famille dans les marchés financiers qui était pour le Brexit et qui a largement financé les campagnes pour le Brexit. Cette deuxième famille est constituée des hedge funds. Qu'est-ce que c'est les hedge funds? Ce sont les fonds d'investissement spéculatifs.
D'accord.
Et des sociétés de capital investissement qui, pareil, investissent dans des sociétés avec du potentiel de développement fort, mais plus de risques. Il faut savoir que ces deux catégories de sociétés ont financé, les hedge funds ont financé le Brexit, la campagne pour le Brexit à 90%, c'est-à-dire 90% de leurs dons ont été vers la campagne pour le Brexit et seulement 10% vers la campagne pour le Remain. Et sociétés de capital investissement, c'est 70% pour le Brexit.
Ah ouais.
Alors, en quoi ils se différencient des grandes banques d'affaires, des grandes banques, etc. Eh bien, en fait, déjà, c'est des sociétés de plus petite taille qui sont très souvent détenues par des milliardaires. Tiens, on en reparlera des milliardaires. Elles gagnent de l'argent, ces entreprises, ces hedge funds et ces sociétés de capital investissement, je dirais, en prenant des risques. Fondamentalement, leur idée, c'est de prendre des risques en jouant sur les marges de la finance, des marchés financiers, en spéculant, en quelque sorte. Pour faire ça, pour réussir, pour gagner leur vie, bien gagner leur vie, elles ont besoin d'un contexte le plus déréglementé possible.
C'est-à-dire
le moins de réglementation possible de leurs petites affaires.
Pour qu'ils puissent faire le plus de choses, être libres et qu'on les
sans être bloqués par des règlements restrictifs. Or, il faut savoir qu'après le krach de 2008, il y a eu un mouvement de re-réglementation des marchés financiers mené par les États-Unis et par l'Union européenne. Et ça, c'est ça dont essayent de se débarrasser les hedge funds et les sociétés de capital investissement en choisissant de soutenir le Brexit. D'accord. L'idée, quelque part, de ces acteurs du Brexit, en quelque sorte, ces acteurs financiers, c'est espérer la création d'un Royaume-Uni complètement déréglementé, une sorte de Singapour européen. Un Singapour offshore européen qui serait pile entre l'Europe et les États-Unis. C'est un peu leur rêve. Ouais. Voilà, en quelque sorte. Alors là, j'ai juste commencé à décrire un peu tout ça. Et on va s'arrêter là pour cette deuxième partie, avec une petite conclusion. Le Brexit, sans que personne ne le remarque, a signé la première grande victoire politique du camp libertarien autoritaire. Il nous reste, Mathieu, pour la troisième chronique, à présenter la philosophie de ce camp libertarien autoritaire, présenter leurs ambitions, plus en détail, et présenter les acteurs qui le soutiennent. Ce sera ce qu'on fera la semaine prochaine, Mathieu.
Très bien. Eh ben, le rendez-vous est donné et le suspense est à son comble. Merci beaucoup.
Exactement. À plus.
À tout bientôt.
Ensemble sur Calade.